À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un des événements les plus étonnants de l'histoire de l'Église. C'est la présence des jésuites parmi les Amérindiens du Paraguay au XVIIe siècle. Dans une excellente revue publiée par le Père Labelle, Jésuites canadiens, il y a déjà de nombreuses années, il avait publié une interview qu'il avait faite avec le merveilleux Père Paul Hamel, décédé le 4 juin l'an dernier. Le Père Hamel avait été, durant les 20 dernières années de sa vie, aumônier à l'hôpital général. Auparavant, il avait fait beaucoup de travaux d'évangélisation et il avait fait en Amérique du Sud, au Paraguay, ainsi qu'au Brésil et en Argentine, une étude poussée sur les, la civilisation qui avait été établie par les jésuites il y a déjà quelques siècles. Une civilisation unique dans l'histoire du monde. Une civilisation fantastique qui a quelque chose d'un peu communiste sur les bords, mais qui a fait des Amérindiens innombrables à cette époque quelque chose d'extraordinaire. Or, c'est aujourd'hui la fête, justement, de Saint Roque Gonzalez, un jésuite, et Saint Alphonse Rodriguez, un autre jésuite. C'est pas le même Alphonse Rodriguez dont je vous ai déjà parlé, un autre. Et Saint Jean del Castillo, trois martyrs qui ont été tués à cette époque, en 1628, je crois, et qui ont beaucoup travaillé dans ces réserves, comme on pourrait dire, qu'a photographié le Père Paul Hamel. Le Père Paul Hamel a fait plus de 800 photos. C'était un photographe extraordinaire. Et ces photographies ont été réunies en Amérique du Sud, au Brésil, pour en faire un livre d'art qui nous révèle les structures, les églises, les choses admirables que les Indiens Guarani ont construites sous la direction des jésuites. Il suffit de prendre l'exemple de l'église San Miguel au Brésil, qui a nécessité pour sa construction le travail de 1000 Guaranis pendant 10 ans. Et ces Guaranis étaient fort heureux d'être libérés de l'esclavage des Espagnols ou des gens qui occupaient les territoires environnants, être libérés ainsi par les jésuites. Alors, les principaux vestiges des anciennes réductions, comme on les appelait, de San Miguel au Brésil ou de San Ignacio Mini en Argentine, puis au Paraguay, il y en a plusieurs aussi. Eh bien, l'UNESCO s'est penché sur cette question. Et en 1983, l'UNESCO a proclamé la fameuse réduction de San Miguel au Brésil, patrimoine de l'humanité. C'est pour vous dire l'importance de ces endroits. Mais qu'est-ce qu'une réduction du Paraguay? Puis est-ce qu'on peut dire que c'est toujours actuel, ces réductions où vivaient les Amérindiens en Amérique du Sud? Eh bien, elles sont toujours actuelles. Et je profite donc de cette revue du Père Labelle, où le Père Hamel, malheureusement décédé, répond de façon admirable, et je veux lui donner une voix, à lui qui est disparu il y a un an et demi. Le Père Hamel dit, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, passé sur nos écrans de cinéma le film « Mission ». Je suis allé voir le film Mission en première avec le père Irénée Beaubien, jésuite, qui m'avait invité. Et ce film Mission portait, vous l'avez probablement vu, je l'espère, sur les réductions du Paraguay avec le célèbre acteur américain Robert De Niro. Il y a la musique étonnante et très populaire d'Ennio Morricone, n'est-ce pas, que nous allons entendre au cours de cette émission. Mais ce film a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes, et ça donne une assez bonne idée de ce qui s'est passé en Amérique du Sud. En fait, ce n'était pas la première fois que des artistes, des gens essayaient d'évoquer la grande épopée de la Compagnie de Jésus. Déjà dans les années 50, Il y a eu la pièce de l'écrivain autrichien Fritz Hochwalder que j'avais acheté en 54 et à la suite de la présentation ici à Montréal de cette pièce admirable. C'est Fritz Hochwalder avait écrit « Sur la terre comme au ciel ». Ça a été créé à Paris avec Victor Francen dans le rôle du provincial. Il était magistral. Hein? Et ça avait été joué à Montréal et sur toutes les grandes scènes du monde. Et savez-vous que l'un des caciques qui joue dans cette pièce, eh bien, c'était Léo Ilial en 1950, dans les années 50. Léo Ilial, à qui jouait à Paris, oui. Et alors, le film, puis la pièce, puis toutes sortes de publications sur les réductions, ces réserves, si vous voulez, montrent bien l'actualité de cette épopée. Absolument unique dans l'histoire, hein, je vous le répète, qui a duré 150 ans, mais qui s'est terminée, comme on a pu voir un peu dans le film, qui a été un peu romancé, là, d'une façon vraiment tragique. Hein. Ignace de Loyola venait à peine, en 1540, de fonder la Compagnie de Jésus avec ses 8 compagnons, je vous raconterai ça un peu, mais je parlerai surtout de la conversion d'Ignace de Loyola vendredi. Et déjà, 9 ans après la fondation des Jésuites, eh bien, les Jésuites débarquaient au Nouveau-Monde. Ça n'a pas pris de temps. Puis en 1555, 6 ans plus tard, donc, ils sont une 30aine à travailler au Brésil. Et 30 ans plus tard, en 1585, ils pénètrent au Paraguay. Et leur premier geste, là comme ailleurs, c'était de fonder à Asunción, la capitale, un collège. Ils fondent un collège pour les fils de colons puis d'administrateurs. Et bientôt, leurs collèges seront trop petits pour satisfaire toutes les demandes d'inscription. C'est que les Hidalgos et les colons espagnols tiennent les Jésuites en très haute considération. Hein? Il était de bon ton dans la noblesse coloniale là, de confier ses enfants au collège des Jésuites déjà. Hein? Mais les Jésuites avaient été renversés de voir avec quelle férocité les colons, les trafiquants d'esclaves, s'acharnaient à pourchasser dans les forêts ces pauvres Amérindiens sans défense, qu'ils ramenaient par milliers et même dizaines de milliers les chaînes aux pieds pour les livrer à l'esclavage. Alors le clergé séculier, puis le clergé régulier, là, les franciscains, les dominicains, puis maintenant les Jésuites qui s'ajoutent à eux, se sont mis à défendre les Amérindiens de leur mieux. Et même, saviez-vous ça que le pape Paul III, je vous en ai déjà parlé en glissant un mot dans une émission, puis les rois d'Espagne d'ailleurs aussi, avaient promulgué des décrets contre l'esclavagisme en Amérique du Sud. Déjà à cette époque, au 16e siècle, cet esclavage qui n'a été aboli finalement qu'au 19e siècle dans le monde, et même ça existe encore dans certains pays arabes, malheureusement. Mais avec la distance, les griefs prenaient des mois à atteindre Rome ou la mère patrie. Et d'ailleurs, cette main-d'œuvre abondante, qui était docile, qui était gratuite, faisait l'affaire de tout le monde, puis on fermait les yeux. C'est alors qu'en 1610, avec l'approbation et même l'encouragement du roi d'Espagne, qui commençait à craindre les soulèvements des Amérindiens, ben une décision du fameux père Acquaviva, le général des Jésuites, ben ça va changer la face de cette partie du monde. Alors, tout en laissant certains Jésuites continuer leur travail là, dans les villes, le père Acquaviva demande à une nouvelle équipe de Jésuites de quitter les villes et d'aller vers les tribus indigènes. Et là, de les organiser en villages fermés, pour les mettre à l'abri des razzias de trafiquants d'esclaves. Là. Puis pour enseigner à ces Amérindiens la doctrine chrétienne, qu'ils étaient très prêts à recevoir. C'étaient des Amérindiens remarquables. Hein. Puis de les faire accéder, si possible, un meilleur niveau de civilisation. Et là, le père Diego de Torres, un homme d'imagination, d'initiative et d'expérience missionnaire, est chargé de regrouper dans différentes réductions combien de Guaranis qui sont encore libres? 500 000. Libres parce qu'ils avaient pu, eux, grâce à leur connaissance des forêts, là, ils avaient échappé à la chasse aux esclaves. Et c'est ainsi que, très modestement d'abord, vont naître les fameuses réductions, puis bientôt la Grande République Guarani, qui constitue, encore aujourd'hui, une certaine énigme pour les historiens. C'est phénoménal. Hein? Le mot « réduction », ça viendrait du mot espagnol « reducir », ce qui veut dire « reconduire, ramener, regrouper, rassembler ». Et en fait, les Jésuites regroupaient les Indiens nomades en un seul lieu pour en faire une communauté, un village, une sorte de réserve. Et avec le temps, les nouvelles invasions du début, le village sera complètement fermé aux étrangers. Pas facile d'y entrer, et pas facile non plus d'en sortir sans autorisation, sans accompagnement, sans protection. Seuls peuvent franchir la frontière les délégués du roi et du gouvernement, les évêques ou leurs délégués. Et les sentinelles, aux frontières, ne badinent pas avec les laissez-passer. Un jour, un visiteur de Rome se présente à la frontière et le cacique, Guarani, là, c'est des Indiens Guarani, ça, l'arrête avec son équipage, puis le visiteur dit « Je viens de Rome ». Et le cacique lui dit « Moi, je ne reçois d'ordre que de mon supérieur jésuite ». On voit que ils étaient formés, ces Amérindiens. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Au début, dans les années 1610, donc, les jésuites occupaient un immense territoire en Amérique du Sud, qui s'appelait alors la grande province jésuite du Paraguay. Aujourd'hui, après les guerres d'indépendance, évidemment, qui ont bouleversé les limites des pays, on retrouve des vestiges de ces réductions guarani à l'intérieur de nouvelles frontières, qui recouvrent trois pays. Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Il y en a 8 au Paraguay, mais il y en a 15 en Argentine, qui se retrouvent maintenant en Argentine, puis 7 au Brésil. Les Indiens guarani étaient le moins civilisés, d'une certaine façon, des peuples d'Amérique du Sud. Ils étaient pourtant les plus nombreux. Comme je vous ai dit, peut-être 1 million. Ils n'étaient probablement pas les bons et doux sauvages qu'on prétendait quand même. Ni non plus les féroces cannibales dont les colons parlaient. Mais ils se permettaient quelquefois de faire un petit feu de braise pour griller et déguster leurs prisonniers. Les Guarani vivaient en groupe sous l'autorité d'un cacique, d'un chef, quoi. C'était le rôle que tenait Léo Ilial dans la pièce d'Oschwalder. Ils étaient, dans l'ensemble, plutôt paresseux, disons. Mais ils étaient bien sociables. Et puis, ils acceptaient assez facilement de croire ce que les jésuites leur enseignaient. Ils étaient sans ambition, par contre, mais ils étaient respectueux de l'autorité établie. Alors là, les jésuites avaient remarqué chez eux une assez grande ouverture au christianisme. Et c'est dans cette pâte humaine de gens un peu primitifs, là, que les jésuites vont essayer de pétrir pour établir une république chrétienne, quoi, où la loi ne sera pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Alors, comment s'était organisé tout ça? Bien, on choisissait d'abord un immense terrain fertile, près d'un fleuve, et puis toutes les réductions, il y en aura une trentaine de réductions, immenses, hein, seront bâties sur le même modèle. Au centre, il y a la place principale, la Plaza Mayor, et puis, on pourrait appeler la Grand Place, si vous voulez, qui sert au rassemblement, aux fêtes, puis à des tournois sportifs, un peu comme dans certaines villes italiennes. Hein. Puis, ça va servir aussi aux célébrations liturgiques, et plus tard, aux manœuvres militaires même. Puis au fond, ben, il y a l'église. Oh, il y a des belles églises, les ruines sont fantastiques, flanquées d'un côté par la résidence des pères, par le collège, ben, un collège. Oui, un collège, puis des ateliers et des entrepôts. Et de l'autre côté de l'église, l'hôpital, la maison des veuves, le cimetière. Et pour compléter tout ce quadrilatère, il y a les maisons des Indiens, tout alignées, en plusieurs rangées parallèles. Pour éviter la promiscuité, bien, les 3000 à 5000 Indiens de chaque réduction jouissaient de maisons unifamiliales. Puis les maisons vont devenir, avec le temps, une enfilade de solides constructions de pierre, avec un dallage surélevé comme trottoir. Une véranda couverte pour se protéger du soleil puis des intempéries. Les Indiens étaient contents. Hein? Et avec les années, mais les églises rudimentaires au début vont devenir d'imposantes basiliques en pierre de taille, avec des voûtes, des nefs, aux colonnes sculptées, des chaires avec des bas-reliefs, des statues magnifiques comme dans les plus belles églises d'Europe. Et la plus remarquable de toutes, c'est l'église San Miguel dont je vous ai parlé tout à l'heure au Brésil, qui avait nécessité pour sa construction, je vous l'ai dit, le travail de 1000 Indiens pendant 10 ans. Alors, au cours des 30 premières années, les réductions des jésuites en Amérique du Sud, on le sait, étaient à la merci de toutes les résias des colons espagnols. Puis aussi, il y avait ceux qu'on appelait les polices, c'est-à-dire des repris justice, les brigands portugais qui venaient de Sao Paulo, on les appelait les polices à cause de ça. On les appelait aussi les mamelouks à cause de leur cruauté. Et Ça nous rappelle un peu les escadrons de la mort aujourd'hui qu'il y a en Amérique du Sud, vous savez, où ils vont tuer des jeunes garçons de 10, 15 ans ou d'autres, là. Ceux qui ont massacré puis assassiné d'ailleurs les 6 jésuites de San Salvador, hein. Du courant de ça, ils ont assassiné 6 jésuites il y a déjà quelques années, hein. J'avais une découpure de journaux que je gardais pour vous parler de ça. Bien. Et le père Ruiz de Montaya, ils ont été assassinés le 16 novembre 1989, il y a 8 ans hier. Ces jésuites, les 6 jésuites de San Salvador. Le père Ruiz de Montaya, un des pionniers des réductions, il y a quelques siècles, avait dû fuir devant l'envahisseur avec 2000 survivants de sa réduction naissante. Et c'est ce qu'on a appelé le grand exode de 1631. Avec ses Indiens puis leurs topos, il avait erré dans les forêts. Il avait contourné les grandes chutes Iguazu, là, qu'on voit dans le film Mission, pour revenir finalement jusqu'à son point de départ, mais avec l'idée bien arrêtée de créer une espèce de petite armée pour se défendre. Il fallait être vraiment exaspéré pour que cet homme et tous ses compagnons jésuites en arrivent à cette solution, hein, pour protéger leurs Amérindiens qu'ils aimaient. Alors que leur rêve était d'établir une société de paix et d'amour à la suite du Christ, le Christ de la paix de l'Évangile, celui dont ils portent le nom, eux qui sont de la Société de Jésus, de la Compagnie de Jésus. Et le père de Montaya finira par obtenir l'autorisation royale du roi d'Espagne de lever dans chacune des réductions une milice défensive, autorisation qui a stupéfié et même a révolté les colons espagnols, hein, parce que pour eux, armer les Guaranis, c'était créer une milice, indépendante de l'armée coloniale, peu disciplinée, mais équipée, puis ça la renforçait l'autorité des jésuites qui était déjà trop grande à leurs yeux. Et les pères ont décrété l'entraînement obligatoire. Même les jeunes Guaranis, comme nos cadets aujourd'hui, là, on les voit des fois dans la rue ou dans les autobus ou le métro, mais ils doivent s'entraîner. Et puis les Guaranis apprennent le maniement des fronts, des arcs, des massues, mais bientôt des sabres, des épées, des lances, et plus tard des mousquets et des fusils. On arrivera même à fabriquer de la poudre à canon. Et l'armée Guarani était calquée sur celle de l'Espagne. Elle comprenait de nombreux grades. Il y avait des Guarani généraux, capitaines, lieutenants. C'était tous des Guarani. Et qui portaient des uniformes colorés, au panache somptueux, galonnés d'or et d'argent, suivant le grade. La discipline y était très stricte. Et chaque réduction possédait son corps de cavalerie. Oui, qui comprenait plus d'un millier de chevaux, avec des selles. Et pour assurer l'entraînement, on fait même appel à des jésuites, anciens officiers militaires, qui s'étaient illustrés sur les champs de bataille de l'Europe, qui avaient décidé de devenir jésuites. Et pourtant, les vrais généraux, les vrais colonels de la milice, eh bien, les jésuites restent invisibles. Pas de panache pour eux, pas d'étoiles, pas de galons sur les manches. Seulement, des circulaires détaillés, des directives précises, que les officiers guaranis exécutent à la lettre, sans sourciller. Un jour, la ministre Guarani contre-attaquera et pourchassera les adversaires mamelouks en déroute qui laisseront plus de 1000 morts sur le terrain. Et après avoir essuyé quelques échecs cuisants aux frontières des réductions, ben là, les Espagnols puis les mamelouks portugais réalisent qu'on ne peut plus, sans y laisser sa peau, attaquer la République Guarani. Ce sera également le point de départ d'un développement spectaculaire dans tous les domaines pour les siècles à venir. Pour le siècle à venir, plutôt, devrais-je dire. Puis dans ce développement des réductions, les collèges des jésuites ont leur importance. Ce ne sont pas des collèges comme ceux qu'on a connus. Hein. Le mot collège est peut-être un bien grand mot, comme dit le père Paul Hamel, pour désigner l'école primaire qui contribuera à l'alphabétisation des Guaranis. Ils vont apprendre à lire et à écrire. L'enseignement est très simple. Tout d'abord, il y a le catéchisme, puisque l'essentiel pour les pères jésuites, c'est d'établir une solide chrétienté, ou, comme on disait, le royaume de Dieu sur terre. On apprend à lire et à écrire la langue commune, le Guarani, et aussi à lire et à écrire en espagnol, mais non à le parler, pour que les Guaranis n'entrent pas en contact avec les colons puis les marchands espagnols, qui sont de passage des fois dans les réductions pour faire commerce, puis dont la réputation morale était peu brillante. Mais comme les pères n'ont aucune intention d'orienter leurs élèves vers le doctorat, ben ils essaieront plutôt d'en faire d'excellents artisans. Puis ils en ont fait d'excellents artisans. Des bons ouvriers, des bons musiciens, ils avaient des orchestres d'instruments à cordes, ils jouaient du violoncelle, c'est extraordinaire. On en a fait des cultivateurs expérimentés. Ils avaient un cheptel énorme. Dans les meilleures années, jusqu'à 1 million de bovins, 300 000 moutons et chèvres, 100 000 chevaux, 70 000 ânes et mulets. C'est immense. Et on formerait également des cordonniers, des tisserands, écoutez bien ça, des tailleurs, des forgerons, des sculpteurs, des peintres décorateurs, des maçons et des bâtisseurs. Or que c'est tout ça la gloire des jésuites, et que j'admire ces hommes qui, au nom du Christ, savent transformer des peuples perdus, abandonnés, pour en faire des vrais peuples. Et certaines réductions auront même des copistes, des cartographes, des imprimeurs qui imprimeront des pièces de théâtre, des volumes en guarani, des livres de prière et même des cartes géographiques. Tout, absolument tout ce qu'on utilisait à l'intérieur des réductions, surtout avec la création de fonderies, va sortir de la main des Amérindiens. Les femmes apprenaient dès leur plus jeune âge tous les secrets de la cuisine, du tissage, de la broderie, de la dentelle, puis même de la poterie, puis de la culture, des potagers, puis des arbres fruitiers. En fait, les réductions en étaient arrivées à un tel point d'autosuffisance qu'elles suscitaient l'envie, évidemment, puis la jalousie hors des frontières et même en Europe, où l'on suivait avec beaucoup d'étonnement le développement des réductions du Paraguay, où tous les moyens de production appartenaient à la communauté et où chacun ne manquait de rien. C'était une sorte de communisme avant la lettre, mais un communisme chrétien. La réduction érigée comme un immense pensionnat. Toute la communauté, debout très tôt le matin, au son de la cloche ou du clairon, était centrée sur l'église. Et écoutez bien, chaque jour, il y avait la messe. Le rosaire, l'angélus, t'as fait rêver, hein? Les dimanches, les jours de fête, mais des processions, des déploiements grandioses d'ornements richement brodés, des bannières, où sont nos bannières, on n'en a plus maintenant, des enfants de cœur en soutane rouge, où sont-ils, on n'en a plus, avec des surplis de dentelle, des chants, de la musique, de la danse aussi, de la danse et des tambours. Et la fête liturgique est omniprésente, puis les Guaranis ne s'enlacent jamais. Ce communisme chrétien, dans son sens le plus pur, pourrait ressembler de nos jours à l'expérience du kibboutz en Israël. Les outils, les instruments aratoires même, les troupeaux de bœufs, de chevaux appartiennent à la fois à tout le monde, il n'y a personne. Il n'y avait pas d'argent, pas de salaire, pas de vente ni d'achat à l'intérieur de la réduction. Les récoltes faites en commun sont entreposées là, dans d'immenses entrepôts. Puis il y a des équipes d'Amérindiens qui voient la distribution de la nourriture et du vêtement. Dans chaque réduction, on tue 20 à 30 bœufs par jour pour se nourrir. Personne ne manque de quoi que ce soit. Les marchands espagnols autorisés peuvent séjourner 2 ou 3 jours dans la réduction pour leurs tractations commerciales, mais à l'écart du peuple, pour pas qu'ils influencent. Hein. Évidemment, il y a des Guaranis qui sont choisis avec soin, qui sont responsables, sous l'œil des pères, là, de la vente aux étrangers des énormes surplus de production. Alors, ils vendent des fruits, des légumes, de la poterie, des tissus, mais surtout de l'herbe merveilleuse, le yerba mate, la boisson nationale du Paraguay, une sorte de thé communément appelé mate. Il semble que le mate ait joué un rôle assez important dans les réductions. C'est la culture du maté, surtout, qui a fait la prospérité des réductions. C'est assez surprenant. Aujourd'hui encore, le maté, c'est toute une institution. Partout où vous allez, les gens boivent et vous offrent le maté. On le boit dans une sorte de calebasse, qui va de la plus vulgaire calebasse, qui va de bois ou d'écorce, et chez les petites gens, jusqu'à la calebasse d'argent, d'or ou d'ivoire, et on fait une infusion de maté avec le thermos d'eau bouillante qui accompagne le buveur, hein? Alors, ça existe toujours, et c'est comme ça que, dans une église du Paraguay, il y a un tableau tout à fait charmant, c'est le père Roque González, mort martyr dans la réduction de Candelaria, qui a été canonisé récemment par le pape Jean-Paul II. Il a été canonisé, si je me souviens bien, en 1988, le 16 mai. Et il a été assassiné le 15 novembre 1628 Puis le père Rodriguez, lui, est mort juste quelques instants après lui. Mais le père Jean del Castillo, Saint Jean del Castillo, a été tué le 17 novembre et leur fête à tous trois est donc aujourd'hui le 17 novembre. Et ils sont arrivés aux cieux tous les trois martyrs. Et sur l'image dans l'église du Paraguay, on voit agenouillé devant Marie le père Roque Gonzalez qui tient Jésus dans ses bras. Et qu'est-ce que le père Gonzalez offre à l'enfant Jésus? Bien, une calebasse de maté. C'est assez surprenant, c'est sympathique. Je vous ai signalé tout à l'heure la pièce de théâtre « Sur la terre comme au ciel » de Fritz Hochwalder, qui date du début des années 50. Je vois dans ce livre qu'elle se termine par cette parole que vous connaissez tous. « Mais que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» Eh oui. Mais quoi ça sert de gagner la plus grande popularité du monde entier, même d'avoir 5 livres publiés sur soi? L'âme de Céline Dion est bien plus importante que tous ses millions et toute sa gloire. Je suis sûr qu'elle y songe, qu'elle y pense, elle a reçu une formation chrétienne. Dans des livres que j'ai dans ma bibliothèque, il y a toutes sortes de choses sur les Chinois. Des livres qu'on appelle les lettres édifiantes, souvent. Des lettres édifiantes et curieuses, il est question des missionnaires, des missions étrangères de Paris ou des jésuites. Et l'un qui vient de paraître il y a à peine une couple d'années, que je vous conseille, c'est « Peau rouge et robe noire ». Magnifique ouvrage, vous y lirez des choses passionnantes sur ces jésuites extraordinaires. Lettres édifiantes et curieuses des jésuites français en Amérique au 18e siècle. C'est paru en 1993 aux éditions de La Différence en France. Et il y a des cartes. Il y a 10 cartes. Il y a 8 planches naïves d'époque. Mais surtout ce beau livre qui est distribué par CMD. CM comme dans Montréal, D. Si vous demandez à votre libraire où trouver le livre, bien, Peau rouge et robe noire. Extraordinaire. Je vous le recommande. C'est passionnant, c'est à lire. On lit toutes sortes de choses, des aventures de ces hommes, de ces jésuites. C'est tellement merveilleux, tellement magnifique. Oh, c'est bouleversant. Alors, revenons à nos jésuites d'autrefois, en Amérique du Sud. Pour faire fonctionner des réductions, ça supposait évidemment des jésuites d'envergure, des hommes d'envergure, évidemment. Hein. On peut mentionner en particulier 2 grandes figures. Tout d'abord, le père de Montoya, j'en ai parlé, qui a organisé l'exode de 1631, comme j'ai dit. Il était né à Lima, au Pérou, en 1585. Il était orphelin en bas âge. Et une jeunesse mouvementée et même délinquante. Hein. Ça vous surprend? Je vous en ai parlé d'un franciscain l'autre jour qui était même prostitué mâle. Et si vous regardez Saint-Ignace de Loyola, dont je voulais vous parler vendredi, sa jeunesse n'est pas très, très exemplaire. Vous allez voir que c'est même plutôt pénible. Mais ce père Montoya a fui la justice de son pays. Ben, il n'était pas le père encore, hein, puis il s'est converti à 21 ans. Attiré par le rayonnement du père Diego Torres, le premier supérieur du Paraguay, il entre donc dans la Compagnie de Jésus, puis il se porte volontaire pour les réductions dont je viens de vous parler. Et 8 ans après l'Exode, là, il entreprend un long voyage de 4 mois à Madrid pour obtenir du roi le droit d'utiliser des armes défensives. À la cour, on le fait patienter durant 23 mois, 2 ans quoi. Et au palais, à la vue des mondanités puis des courbettes, des baisements. Mais il a bien l'impression de perdre son temps, et comment, hein? Est-ce qu'il n'y a rien de plus ennuyant que toutes ces réceptions? Ah! Il en profite pour écrire 5 livres. Plus de 2000 pages en guarani, car il connaît bien la langue. Et il écrit sa grammaire, son dictionnaire, ses écrits sur les coutumes et les traditions indigènes qui ont réussi à alphabétiser les Amérindiens, qui ont réussi à stabiliser la langue guarani, qui est parlée encore aujourd'hui au 20e siècle. C'est les jésuites qui l'ont sauvé, peut-être, cette langue. Et les Guaranis ont même constitué la première société lettrée de l'hémisphère sud-américain. Ah, ces jésuites. Et cet homme d'action, de vision, de commandement, va mourir dans sa ville natale, à Lima, au Pérou. Puis après sa mort, 40 Guarani vont marcher plus de 1000 milles à travers les Andes, les rocheuses du sud, pour réclamer ses restes. Puis on va célébrer, dans des fêtes inouïes, le retour triomphal de sa dépouille. Et on peut mentionner aussi le père Anton Sepp, S-E-2-P. On retrouve son nom souvent. C'est un jeune Autrichien, lui. Puis il fait partie de la chorale des petits chanteurs de Vienne. Hein? C'est encore populaire, ça. C'est un musicien, un compositeur. Il va donner des récitals en Autriche, en Allemagne, en Angleterre. Puis il entre finalement dans la compagnie de Jésus. Il a décidé de cesser de perdre son temps, comme on pourrait dire. Puis il devient professeur de rhétorique et de musique. Il avait entendu parler de l'extraordinaire mission du Paraguay. Ça le fascine. Il se porte volontaire. On le fait patienter pendant 7 ans, le pauvre. Et finalement, il arrive à la réduction de Yapehu. Là, comme dans les autres réductions, il y en a une trentaine, je vous l'ai dit, il constate que le goût des Guaranis pour le chant, la musique et la danse est sans limite. Alors il organise une super école de musique. Il écrème les génies en herbe. Les Ouidis, ça existe toujours, des génies en herbe. Il y en a aujourd'hui. Puis il prend ceux des autres réductions, là. Puis il les concentre dans son école à lui, qui va devenir une sorte de conservatoire, une sorte d'école Vincent d'Indy, si vous voulez, de la République Guarani. Et bien plus, il va apprendre aux Amérindiens à fabriquer leurs propres instruments de musique. C'est incroyable, hein? Il fabriquera même avec eux des orgues à tuyaux et à pédaliers, croyez-le, croyez-le pas, des orgues à tuyaux et à pédaliers, des pompes hydrauliques pour l'irrigation des terres aussi, des choses pratiques, hein? Des cadrans solaires, des horloges. On a même fabriqué une horloge si sophistiquée qu'on y voyait 12 apôtres qui apparaissaient successivement aux 12 coups de midi. Incroyable. Alors ce jésuite, le père Sepp, organise l'économie, qui va faire la prospérité, puis qui va assurer la stabilité des réductions. Alors il crée la première industrie du vin et du coton dans cette partie d'Amérique du Sud. Il écrit même des traités sur la culture du maïs, du tabac, du maté, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on cultivait simplement dans la forêt, mais là, ils vont le cultiver vraiment. Il écrit aussi sur l'élevage du mouton, puis du bœuf, sur l'architecture. Quel homme, hein? Une autre de ses réussites à ce père jésuite, c'est la découverte puis l'exploitation de gisements de fer qui vont rendre les Guaranis indépendants de l'extérieur pour la production de leurs propres outils, de leurs armes, puis aussi des instruments aratoires pour cultiver. Et c'est avec des hommes de cette trempe que les réductions des Guaranis ont atteint progressivement leur apogée vers 1750. Là, la République Guarani, qui est riche, qui est puissante, qui est redoutée même, semble installée au cœur du continent pour l'éternité. Mieux encore, elle continue à exercer un énorme pouvoir d'attraction. 4 autres tribus, pour améliorer leurs conditions de vie puis pour échapper à l'esclavage, bien, ils désertent pour se joindre aux jésuites, au grand désespoir des propriétaires terriens qui perdent leurs esclaves. Et au rythme où se développent les réductions, on pourrait soupçonner les jésuites d'ambition démesurée. Évidemment, il n'y a rien comme d'accuser les jésuites. Hein? Peut-être même on pourrait les accuser de vouloir faire de la République Guarani une sorte d'empire pour leur propre pouvoir. Voyons, ce sont des serviteurs de Dieu. Et la grande confédération Guarani se veut d'abord et avant tout une république chrétienne, chrétienne, uniforme et homogène, qui vit au rythme des valeurs évangéliques. Mais sur la carte de l'Amérique du Sud, elle forme déjà une tache impressionnante, toujours en expansion. Quand on se prend à rêver, on se demande si les réductions n'auraient pas pu atteindre la Bolivie et le Pérou sur l'océan Pacifique, puis la côte du Brésil sur l'Atlantique. Dans cette hypothèse, la République Guarani aurait été en possession de ce qui constitue une grande puissance, avec des débouchés sur la mer, avec un port à l'est et à l'ouest du continent de l'Amérique du Sud. Et la jonction entre les deux grands océans. Est-ce qu'il faut voir là une hypothèse farfelue? Est-ce que c'est ça qu'on appelle une chimère de l'esprit, comme dit le père Paul Hamel? Qui pourrait vraiment jurer que les jésuites n'aient jamais songé à cet immense empire guarani, plus vaste que l'Europe, et dont les richesses naturelles en auraient fait le grenier de l'Europe. Yapéhu, capitale de l'empire des Jésuites. Pourquoi pas? Mais pourquoi ces ambitions démesurées, à supposer que ce fut le cas? Pourquoi qu'elles se sont pas réalisées? C'est qu'au moment où toutes les ambitions, tous les espoirs étaient permis, au moment de l'apogée où l'on pouvait supposer avec raison qu'aucune force humaine n'était capable de menacer cette belle structure politique et chrétienne, maintenant solide de ses 150 ans. Mais là, il y a eu des nuages noirs. Des nuages annonciateurs d'un orage terrible qui commence à se former dans le ciel du Paraguay et tout cela pour une simple question de contrebande portugaise qui aboutira au fameux traité des limites. Je m'excuse auprès des Portugais qui m'écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup. Les colons espagnols, exaspérés par la contrebande de la colonie portugaise, demandent au Portugal de lui céder le territoire portugais de San Sacramento, qui est la plaque tournante de la contrebande. Mais, et c'est là que commence le drame, le Portugal demande en retour, quoi? Un territoire espagnol. Celui-là précisément où se trouvent 7 des réductions les plus prospères de la République Guarani des Jésuites. Le coup était brutal. Si brutal qu'on peut se demander si ça dissimulait pas une arrière-pensée complice des rois d'Espagne et du Portugal. Une façon détournée, quoi, un complot pour démanteler et écraser l'œuvre des Jésuites. En somme, pas mal de monde regardait d'un mauvais œil le travail des Jésuites en Amérique du Sud. Il faudrait peut-être préciser ici que c'est pas nouveau. Même avant la réduction des... la création des réductions, les Jésuites s'étaient mis à dos une certaine partie de la population. Hein. Dans les paroisses et les collèges, ils avaient pris la défense des esclaves. Et ça, c'est pas bon quand on prend la défense des pauvres. Hein. Les riches sont enragés. Les Jésuites exhortaient les propriétaires de plantations puis les riches marchands à libérer leurs esclaves. Ou du moins les traiter, non pas comme vulgaire bétail, mais comme des êtres humains, comme des fils de Dieu. Alors il y a eu des représailles. Ces riches marchands menaçaient de quitter les églises, de retirer leurs fils des collèges jésuites, de supprimer l'aide qu'ils fournissaient à leurs institutions. Toujours l'argent et le pouvoir. Et quand les jésuites commenceront plus tard à fonder les réductions, la société coloniale n'a jamais manqué de nouveau d'accuser les pères. Les colons, des malheureux colons, se plaignent d'être ruinés par le commerce des réductions, pour lequel les jésuites, disait-on, auraient extorqué de nombreux privilèges. Et puis il y a les évêques qui n'apprécient pas beaucoup ces diocésains qui échappent à leurs autorités, hein? Tous ces Guaranis qui s'en vont, puis c'est... Mais encore, ça leur prive de leur dîme, les évêques, il y a de l'argent là-dedans, hein? Les autorités civiles et religieuses se plaignent de ne pouvoir exercer leur juridiction sur les réductions guaranies, tandis que les trafiquants d'esclaves voient leur échapper une quantité innombrable d'Indiens qui ne peuvent plus ravoir. Beaucoup vont plus loin. On prétend que la Compagnie de Jésus avait créé une sorte d'État dans l'État, sous le masque de la religion. Et puis, c'est tellement injuste. On disait que les seuls articles de foi enseignés aux Guaranis étaient la haine des Espagnols et des Portugais et l'obéissance absolue aux curés, aux Jésuites, quoi. On accusait Jésuites de s'entourer d'une sorte de mur du silence pour mieux dissimuler les richesses inouïes qu'ils ont. Les réductions, disait-on, regorgeaient d'argent, d'or et de pierres précieuses, puis on traitait la Compagnie de Jésus de puissance occulte. On lui supposait une collusion permanente avec les banques, des contacts suspects avec les gouvernements étrangers. Qu'est-ce qu'on peut pas dire contre l'Église, hein? Puis ça continue encore aujourd'hui. On le sait, on n'arrête pas. Plusieurs insinuaient que le roi ne percevait dans les réductions qu'une taxe dérisoire, d'ailleurs absorbée par le traitement luxueux des Jésuites. Cette campagne de dénigrement qui sévissait dans la société des colons et qui était attisée également en Europe par le marquis de Pombal allait venir à bout des décisions royales. Vous allez voir ce que le marquis de Pombal va faire. Quel homme indigne. Quand j'avais vu la pièce de Schwalder sur la terre comme au ciel qui traite de cette question, quand j'ai vu le film Mission avec le père Irénée Beaubien, on a le cœur qui tremble. On devient épouvanté devant l'horreur. Mais je vais vous raconter justement cette horreur. Quelle va être la réaction du roi devant tout ça? C'est terrible. En 1750, arrive d'Espagne un ordre du roi, qui est cuisiné justement par le marquis de Pombal au Portugal, et par Choiseul en France, tous deux des ennemis jurés des jésuites. Les pères et les Guaranis sont sommés de quitter leur réduction. Tous leurs biens seront confisqués. Voilà ce qui est dit. Et la résistance s'organise. Même si les jésuites ne songent pas à désobéir, non, vraiment pas, ils tiennent à défendre leurs rêves. Puis leurs Indiens, à leur habilement, ils temporisent. Ils essaient de modifier les ordres. Ils accumulent les mesures de sursis. Ils envoient des suppliques, d'autres suppliques. Ils sollicitent des pétitions de toutes les autorités coloniales qui, on le sait, ne portent pas les jésuites dans leur cœur. Et les pères prétendent que le traité est injuste, contraire aux droits naturels et aux lois de l'Espagne. Ils disent que ce traité tombe sous le coup des excommunications papales. Et qu'en somme, le roi devrait être excommunié. Ils soutiennent que le roi s'est laissé duper. Que les conséquences seront désastreuses. Il y aura la mort de milliers d'Indiens, la fuite des autres dans le paganisme, la ruine d'une œuvre unique en Amérique du Sud, une œuvre immense, je vous le rappelle, une grande civilisation. Cette menace, voilà un bon siècle que les jésuites s'en servent, et elle a toujours été efficace, mais maintenant la situation a totalement changé. Tous, même les gens d'église en Amérique et en Europe, se sont ligués contre eux, des évêques. Les Guaranis réagissent très mal. Pour les Indiens qui avaient été loyaux à la couronne d'Espagne, qui avaient même été invités à plusieurs reprises par le roi pour chasser des mamelouks portugais aux côtés de l'armée coloniale espagnole, moins bien entraînée, ne comprennent pas, mais pas du tout, que Sa Majesté très catholique les trahisse en les livrant à leurs ennemis jurés de toujours, les Portugais. Ils interceptent aux frontières les négociateurs de ce marché de dupes, et toujours est-il que 7 ans après la signature du traité, le traité des limites. Mais les Portugais n'ont pas encore pénétré d'un pouce dans le nouveau territoire qui leur a été accordé. Et les jésuites, déjà supprimés en Espagne, supprimés au Portugal, supprimés en France, sont toujours dans les réductions, eux autres. Finalement, le roi d'Espagne donne aux autorités coloniales cette consigne d'exécution qui manifeste toute sa haine des jésuites. Si, après l'embarquement, il reste encore sur les réductions du Paraguay un seul jésuite, même malade ou moribond, vous serez puni de mort. Moi, le roi. C'est horrible. Et puisqu'en même temps arrive de Rome un ordre du Père Général de la Compagnie de Jésus qui demande, en soumission, quoi, la prompte exécution sans résistance des volontés royales, l'obéissance. C'est à ce moment que s'est joué chez les pères un drame vraiment digne des pièces de Corneille. Faut-il obéir et voir crouler d'un seul coup l'œuvre d'un siècle et demi ou résister? Le film Mission rend bien compte de ce drame de conscience. Entre le provincial et son compagnon, dans le film qui est un ancien trafiquant d'esclaves devenu jésuite, qui propose la méthode dure, qui décide de reprendre son épée à la tête des Guaranis, mais la réalité est tout autre. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. Ça correspond pas du tout à celle du film. Quand les dragons espagnols ont visité les réductions les unes après les autres pour l'arrestation des pères jésuites avec l'ordre de tirer sur tous ceux qui résistaient, ils n'ont pas eu à ouvrir le feu. Jamais, contrairement au film, on n'aurait vu des criminels se laisser arrêter avec autant de docilité. Ces jésuites criminels n'étaient pas des criminels. C'étaient des héros et des saints. Et il y eut bientôt chez les Indiens révoltés quelques tentatives de rébellion, de scarmouches vite réprimées. Faut ajouter à la louange des jésuites qu'ils ont usé de toute leur autorité sur les Guaranis pour les empêcher de s'opposer à la force, à l'exécution des volontés royales, à l'arrestation des pères. L'arrestation brutale, faite de vengeance longtemps accumulée, n'avait pas surpris les jésuites, hein, ils s'y attendaient depuis quelques années. C'est avec une dignité héroïque, il faut le dire, hein, que sur une période de 3 ans, plus de 2300 jésuites, je répète, 2300 jésuites ont été expulsés des réductions et de toute l'Amérique espagnole et portugaise. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces jésuites? On les a entassés dans des charrettes jusqu'à Buenos Aires, eux qui avaient tellement servi. Et en attendant les bateaux, on les jette en prison. On les enchaîne comme des criminels. Il y en a beaucoup qui meurent et ceux qui survivront aux cales infectes des bateaux vont disparaître dans les prisons du marquis de Pombal. Les Indiens, séparés de leurs maîtres, vont regarder le départ de leur protecteur avec une sorte de fatalité. Et beaucoup vont retomber dans l'indolence que les Jésuites avaient essayé de secouer. Un certain nombre iront exercer dans les villes, les villages, les métiers appris dans les réductions. La plupart se laisseront absorber par la grande masse indienne, puis vont retourner à la vie nomade, dans les forêts, puis vont être repris par les trafiquants d'esclaves. Et le premier geste des autorités espagnoles et portugaises sera d'abattre les monuments puis les croix qui portaient la devise de la compagnie de Jésus, IHS, Jésus, sauveur des hommes. Les marchands et les pillards se lanceront avec férocité à la recherche des fameuses mystérieuses richesses des réductions. Dans leur souci d'effacer jusqu'à la plus petite trace de l'Empire jésuite, là, ces abominables Espagnols et ces terribles Portugais vont saccager les églises et les bibliothèques jusqu'à fabriquer leurs cartouches avec les manuscrits des pères. Et le peu qui subsistera au pays des Guaranis va être anéanti plus tard, dans le feu et le sang, par les révolutionnaires anti-catholiques du 19e siècle. De nos jours, et les photographies en sont témoins, les photographies du père Paul Hamel, il ne reste pas grand-chose de la glorieuse République Guarani. Des maisons en ruines, des colonnes de pierre, des pans de murs d'églises, des œuvres d'art réparties dans de nombreux musées, mais qui laissent deviner la grandeur et la beauté d'une époque révolue. Alors quel jugement peut-on porter sur l'œuvre des Jésuites au Paraguay? On en a dit beaucoup de bien, un peu de mal aussi. Mais même Voltaire, qui détestait les Jésuites, a prétendu que l'établissement, je cite, l'établissement du christianisme dans les réductions du Paraguay apparaît en un certain sens comme le triomphe de l'humanité. Il faut retenir ici une toute petite phrase gravée dans la pierre d'un monument. Elle est du père Sepp, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce génie. Elle révèle à elle seule la force secrète, la passion qui animait la vie héroïque de ce saint homme d'action. Et de tous les Jésuites qui ont travaillé pendant plus de 150 ans dans les réductions du Paraguay. Je crois que tout ce que j'ai fait, tous mes travaux, tous mes efforts, dit le père Sepp, n'avaient qu'un seul motif. L'amour des Guaranis et la plus grande gloire de Dieu. C'était un texte du père Paul Hamel, décédé le 4 juin 1996. Je veux rendre hommage à tous ces Jésuites qui m'ont formé au collège Brébeuf. Je leur dois tant. Je leur dis que je les aime beaucoup. J'ai parlé ce matin au père Labelle, quel homme merveilleux. Hier au père Beaubien, quel homme que j'aime beaucoup. Père Latourelle et tant d'autres. Le père Genet qui m'a été mon professeur, que j'aime beaucoup aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Eh bien, en Indonésie, on massacre les catholiques du Timor oriental, cette région qui a été conquise par l'Indonésie musulmane. 200 000 morts. Leur évêque, Monseigneur Carlos Bello, a reçu le prix Nobel. Mais est-ce qu'on les aide? C'est le temps d'aider aujourd'hui. Ce ne sont plus les Guaranis. Ce sont les gens du Timor oriental qui souffrent. C'est eux qu'on massacre. Que fait-on pour les aider? Vous pouvez vous adresser à Développement et Paix. Développement et Paix établi par les évêques du Canada pour les aider.